Bonjour, nous sommes le lundi 26 mars 2018, il est 14h et ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on n'a pas trouvé un nouveau testament de Johnny Hallyday. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Une semaine sur deux, la relève, c'est 30 minutes avec les nouveaux talents. Aujourd'hui, on parlera bouton essoufflé. Pourtant, il n'y aura ni acné ni cheminée. Aujourd'hui, on parle accordéon. Bonjour Félicien Brut.
Et bonjour Christophe.
Et pardon pour cette présentation, donc ni acné ni cheminée, on va d'aller vous la faire souvent ?
Oui, on me la fait souvent effectivement, surtout l'acné, plus que la cheminée encore.
Donc vous êtes accordéoniste et vous êtes jeune, comment est-ce possible ?
Jeune pas tant que ça, ça commence à me passer, j'ai 31 ans.
Oh bah ça va, pour nous vous êtes jeune.
Mais on peut être accordéoniste et jeune, oui, même si c'est vrai que les gens de ma génération, ça a été un petit peu compliqué quand on était enfant.
Quand avez-vous rencontré l'accordéon pour la première fois ? C'était à quelle occasion ?
J'en ai aucun souvenir, absolument pas. Je suis né en Auvergne, c'est une terre de musique traditionnelle et d'accordéon par essence. Donc j'ai toujours eu envie de jouer de cet instrument.
C'est vous qui avez voulu, on ne vous a pas forcé. Parce qu'avant l'émission, avec d'autres personnes de la radio, on se plaignait de parents qui nous avaient forcé à en faire. Vous, c'était volontaire ?
Oui, c'était volontaire. Je vous ai entendu vous plaindre dans les couloirs, oui, effectivement. Mais non, moi, c'était vraiment volontaire.
Et donc vous en aviez déjà entendu ?
Oui, j'en ai entendu depuis toujours. Je pense que mes parents adoraient ça. Ils allaient souvent aux belles musettes, etc. J'avais un oncle qui jouait de l'accordéon et j'ai reçu un petit instrument. J'avais 2 ans seulement, un petit accordéon en plastique. Ouais. Et voilà, donc j'ai toujours voulu jouer.
Et donc à l'époque, vous jouiez quoi ? Quand on commence l'accordéon, on joue quoi ?
Quand on commençait l'accordéon il y a maintenant 25 ans, on commençait forcément par le musette et la musique populaire. Moi, j'ai fait beaucoup de musique populaire et de musette.
C'est quoi le musette ? Moi, je sais, mais je ne suis pas sûr que tous les auditeurs le savent.
Alors, le musette, c'est un style.
Plutôt
de...
la techno, le rap, le flow.
Le musette, c'est un style de musique à danser donc, qui a été très populaire en France, qui a été aussi après très ringardisé et puis parfois un peu mal servi, c'est vrai aussi. Donc c'est typiquement la musique qu'on imagine aujourd'hui pour les clubs du 3e âge, voire même du 4e âge, ouais. Le dimanche après-midi. Mais le musette, c'était une belle histoire parce que c'est un style très métissé qui est né au début du 20e siècle. De deux phénomènes. D'abord un phénomène d'exode rural avec les Auvergnats qui arrivent à Paris avec des petits instruments qui s'appellent des musettes, qui sont des petites cornemuses. Et puis dans le même temps...
C'est pour ça que ça s'appelle comme ça ? Moi je crois que c'est parce qu'on pouvait les
absolument.
Mettre dans une musette.
Non, pas du tout. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et dans le même temps, on a des vagues d'immigration extrêmement importantes et ça, c'est des problèmes finalement qui sont assez contemporains de notre époque. Et si on regarde ce qui s'est passé il y a 100 ans, on a quantité de population qui arrive d'un peu partout dans le monde, qui s'installe à Paris et tous ces gens vont faire de la musique ensemble et c'est pour ça que dans le musette, on va avoir des danses caractéristiques de différentes régions du monde.
Aussi bien de la valse qui vient peut-être d'Europe centrale que
absolument. On a la mazurka et la polka qui arrivent d'Europe de l'Est, mais on a le tango, le cha-cha, la samba qui arrive d'Amérique latine, on a le foxtrot qui arrive des États-Unis, le paso doble qui arrive d'Espagne, et c'est un style profondément multiculturel et mondialiste, et c'est ce que j'aime bien dans ce
répertoire-là. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a presque tendance à penser que l'accordéon, c'est le terroir. Alors on oublie complètement cette histoire que finalement, c'est un instrument de brassage, c'est ce que vous nous dites.
Exactement, c'est un instrument. Qui est un vrai vagabond, qui s'est baladé partout. Il a été inventé par un Autrichien. Il est fabriqué depuis toujours en grande majorité en Italie. Et il a fait vraiment le tour de tous les continents. Et on en fait en France quelque chose, effectivement, de très franco-français. On associe souvent Paris, le Parisien avec son béret, sa baguette de pain et un petit accordéon derrière. Et alors que, non, c'est pas l'histoire de cet instrument.
Félicien Brut, vous jouez avec le trio Astoria, on peut nous le laisser un peu en fond sonore, parce que c'est pas désagréable. C'est un violon, un piano et vous-même.
Oui, absolument.
Alors ça c'est une réinterprétation du musette, c'est quoi ?
Pas du tout, ça c'est du tango argentin, mais un nouveau style de tango argentin qui a été inventé par Astor Piazzolla.
Donc on est plutôt dans les années 50 ?
Oui, absolument, il a commencé ça dans les années 50 et Piazzolla, il a eu un peu le parcours que pourrait avoir un accordéoniste français. Il a commencé par faire danser les Argentins dans les bas-fonds, dans les faubourgs de Buenos Aires, vraiment. Et puis un jour, sous souffrant un peu du manque de considération que lui portaient ses collègues musiciens classiques, il a décidé de venir en France étudier la composition, l'écriture classique, et il a créé un nouveau style au contact de Nadia Boulanger, qui était son professeur de composition. C'est ce qu'il a appelé le tango nuevo. Il s'est inspiré comme ça de sa culture populaire d'origine pour faire de la musique savante.
On va en mettre un petit peu. On a presque des sons requis de jazz.
Oui, c'est vraiment une musique qui est à la frontière comme ça entre tous les styles, ouais, finalement. Entre la musique traditionnelle d'Argentine, donc le tango, mais c'est très inspiré du jazz. Il y a une grande liberté dans cette musique, dans l'interprétation, mais même dans l'exécution technique, dans la modification des rythmes, la modification de l'harmonie. Piazzolla prenait lui-même énormément de liberté, il aimait beaucoup ça.
C'est un héros national en Argentine aujourd'hui.
Oui, et en France, quelque part, c'est un compositeur qui a, je crois, beaucoup marqué l'histoire du XXe siècle et qui fait débat encore aujourd'hui. C'est-à-dire que certains, on se pose toujours la question de savoir si Piazzolla c'est réellement de la musique classique ou pas vraiment, et ça fait un peu débat. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des compositeurs du XXe siècle les plus joués dans le monde.
Vous, quand vous rencontrez l'accordéon au début, c'est pas du tout ça que vous jouez, c'est même pas, vous avez pas envie de jouer ça?
Ah non, absolument pas, j'ai pas du tout envie de jouer ça, même je pense qu'à l'âge de 8 ou 9 ans, je j'aimais pas du tout cette musique, je trouvais ça bien trop compliqué. Non, je jouais vraiment Étoile des Neiges, Les Fiancés d'Auvergne, La Java Bleue, enfin toutes les rengaines du bal musette, et c'est ça que j'adorais vraiment. J'ai appris ensuite à aimer la musique classique.
Et vous aviez envie de faire danser les gens?
Absolument, j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans, j'ai fait beaucoup de bal musette et j'ai...
Alors ça, c'est quoi ça? C'est le on part le samedi soir avec, j'imagine, un orchestre, en tout cas avec des gens avec qui vous jouez.
C'est ça, exactement. J'avais un orchestre avec un clavier.
Vous étiez combien?
On était alors parfois 4, parfois 7.
Ça commence à faire.
Ouais. On avait 3 cuivres et puis un clavier, un batteur. Et puis alors on part en camion, on décharge du matériel, on monte la sono, les éclairages, etc. Et puis on fait danser les gens pendant 5 ou 6 heures. Et puis on redémonte et on refait la route dans l'autre sens. J'ai
et fait ça, vous aimiez ça, vous?
Oui, j'ai adoré ça.
Je suis impressionné, j'ai rencontré quelqu'un.
Non, j'ai adoré ça.
Il est où le plaisir? C'est de voir les gens danser?
Mais oui,
c'est d'apporter.
Bien sûr, c'est de les voir danser, de les voir s'amuser. C'est quand même extraordinaire de faire un métier où on amuse les gens. Je crois qu'il y a finalement peu de métiers qui sont comme ça. Alors après, à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Et c'est pour,
mais
c'est
vous auriez pu faire David Guetta? Pour faire danser les gens.
J'aurais pu faire David Guetta, non, je pense pas. Parce que...
Parce que l'accordéon, c'est un instrument particulier aussi. C'est dur de lui donner une personnalité. Quand on en joue, c'est pas comme un instrument avant ou un instrument comme la guitare où on va avoir un toucher, on va reconnaître. L'accordéon, c'est un instrument assez mécanique, finalement, froid. Moi, je veux dire, moi j'en ai joué, j'ai toujours trouvé ça très froid. On peut pas
moi,
donner...
j'ai pas du tout cette sensation-là.
Je crois que j'étais vraiment pas fait pour. Alors, j'arrête de régler mes comptes aujourd'hui.
Ça a des points communs avec la guitare, dans le sens où la guitare et l'accordéon sont des instruments un peu hybrides dans les répertoires, c'est-à-dire que la guitare, on connaît finalement peu la guitare classique, et c'est un instrument malgré tout extrêmement populaire. Je crois que la caractéristique de l'accordéon, c'est d'abord qu'il est populaire. Si on descend dans la rue, là, en bas de l'immeuble, et qu'on parle d'accordéon à 2-3 personnes qu'on croise au hasard, ils vont savoir à peu près à quoi ressemble cet instrument et comment on en joue et quel son il émet. C'est pas forcément le cas du basson ou du hautbois, par exemple, qui sont des instruments nobles et très installés dans le milieu de la musique classique. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans cet instrument, c'est le fait que ça soit un instrument harmonique, on peut jouer plusieurs notes en même temps sur cet instrument, et en même temps on a aussi une capacité d'expression qui s'apparente un peu aux cordes, parce qu'avec le jeu du soufflet sur un accordéon, on peut recréer des dynamiques que créerait un archer sur un instrument à cordes.
On reprend. Et voilà, oui, on reprend. Yvette Horner, Popcorn, c'est une reprise d'un morceau, presque un peu des premiers morceaux de musique électronique. Là, c'est vraiment l'accordéon, ce qu'il y a de plus kitsch. On reparlera après d'Yvette Horner, mais là, c'est ce qu'elle fait de plus kitsch.
Oui. Oui.
Ça, c'est quelque chose que vous aimez aujourd'hui.
Alors, moi, je ne peux pas dire qui va être Turner, c'est Kitsch.
Parce qu'on va en parler.
Ouais. C'est un personnage extrêmement riche et intéressant. Mais oui, ça en particulier, c'est quand même relativement mauvais. Oui, effectivement. Non, c'est un peu bizarre, oui.
C'est le décalage
Déjà, je crois que le morceau de musique électronique, déjà, a plutôt mal vieilli. Et même qu'en écoutant la version originale aujourd'hui, on la trouve un peu kitsch. Et alors, a fortiori, jouer à l'accordéon. Mais il y a eu une époque aussi.
Sur Internet, on peut trouver une version andine. Je la conseille.
Ah, ça doit pas être mal aussi. Il y a eu une époque où on a voulu montrer que cet instrument pouvait jouer de la musique moderne, de son époque.
Il y a une espèce de complexe.
Oui, bien sûr.
Et donc, en général, on sait des trucs encore plus ringards, je trouve, moi, quand on essayait de montrer que c'était moderne.
Ah oui, quand on a essayé de jouer aussi au départ, de jouer de la musique classique avec cet instrument, il y a eu des choses de plus ou moins de bon goût. Mais en même temps, moi, j'ai énormément de respect pour les gens comme Yvette Horner et bien d'autres qui...
Aimable, André Verschuren...
Bien sûr, ont aussi contribué à populariser cet instrument. Et Yvette Horner, c'était une musicienne brillante qui avait son prix de piano, qui était une très grande pianiste. Et elle avait une énergie, cette femme absolument incroyable. Elle a accompagné le Tour de France pendant une quinzaine d'années. Elle jouait sur une voiture, donc au début de la caravane du Tour, sur le toit de la voiture, elle accompagnait toute l'étape. Alors elle racontait elle-même qu'elle avait des mouches et des moustiques qui venaient se coller sur son visage. Elle arrivait dans le village étape, elle allait se débarbouiller, elle remettait le maillot jaune au vainqueur de l'étape. Et ensuite, elle faisait un bal dans le village étape toute la nuit. Elle repartait le lendemain à nouveau sur le toit de la voiture.
Ah ouais, c'est incroyable. C'est une santé incroyable, hein, c'est une femme...
C'est une carrière incroyable aussi. Voilà, elle était extrêmement populaire.
Vous avez fait le conservatoire quand on joue l'accordéon. Il y a une section accordéon aujourd'hui conservatoire.
Aujourd'hui, il y en a. Moi, j'ai pas été élève au conservatoire parce que en Auvergne, il n'y avait pas d'accordéon enseigné dans les conservatoires près de chez moi. Donc, j'étais dans une école. J'ai pris des cours dans une école privée, mais ensuite j'ai passé un diplôme d'état. Donc, au CFEDEM. Le CFEDEM, c'est un peu l'équivalent de l'IUFM pour les enseignants en musique. Et puis, j'ai enseigné au conservatoire pendant près de 10 ans. Et puis là, j'ai arrêté.
Conservatoire de Paris.
Non, j'ai enseigné au conservatoire de Libourne d'abord, à côté de Bordeaux, puis ensuite à Châteauroux.
Dans l'Indre.
Et puis,
la ville de Gérard Depardieu, donc ça ne peut pas être une mauvaise ville.
Absolument. Et de Michel Denisot.
Ça ne peut pas être une mauvaise ville.
C'est les deux célébrités Castelroussines.
Et vous, Félicien Brut, donc.
Non, parce que moi je ne suis pas de Châteauroux, je suis auvergnat quand même. Oui. J'adore Châteauroux, mais je suis auvergnat et quand on est auvergnat, on y tient, vous voyez. Mais je suis arrivé à Paris il y a quelques mois parce que j'ai arrêté les cours pour me consacrer au concert.
Mais il n'y a pas de conservatoire d'accordéon en Auvergne, qui est le pays de l'accordéon, mais il y en a un dans l'Indre.
Maintenant, il y a des cours au conservatoire de Clermont, mais pendant longtemps, il n'y a pas eu de classe d'accordéon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quantité d'écoles privées d'accordéon.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il se trouve que l'accordéon est rentré très tard dans les cursus de conservatoire. On a encore un travail à faire d'ailleurs. La classe au sub de Paris, par exemple, le conservatoire supérieur de Paris, a ouvert il y a seulement entre 10 et 15 ans.
Oui, très longtemps, c'est un instrument populaire, comme vous dites, mal aimé. On n'en voulait pas dans les conservatoires.
C'était complètement banni de l'enseignement académique. Et il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, en particulier Marcel Azola, qui a accompagné longtemps Jacques Brel.
Aussi, un très grand accordéoniste.
Qui, lui, a mis beaucoup d'énergie, justement, pour ouvrir des classes d'accordéon dans les conservatoires parisiens. Et ensuite, ça a fait des petits en province. Et c'est une belle histoire.
À quel moment vous avez eu envie d'en faire votre métier, comme on dit quand on est enfant?
Très tard. J'ai hésité longtemps. J'ai fait une année de médecine et puis après j'ai fait une licence de physique chimie. Il y a eu un élément déclencheur qui était un peu personnel et j'avais un cousin qui avait mon âge et qui est décédé dans un accident de voiture. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'au-delà de vouloir assurer ses arrières financièrement dans la vie, il fallait aussi faire ce à quoi on croyait réellement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça.
Good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up soon. You're gonna spread your tiny wings and take to the sky. But until that day, you know nothing can harm you. With mommy and daddy standing by.
Ces applaudissements sont aussi pour vous, Félicien Brut, mais avant tout pour Yvette Horner, dont on s'est un petit peu moqué tout à l'heure, musicienne hors pair, qui est avec le chanteur des années 80, Boy George, dans une interprétation de Summertime de l'immense Gershwin.
La relève, tous les lundis à 14h, sur Radio Campus Paris.
On reprend tout, vous écoutez toujours La Relève, on est toujours avec Félicien Brut, qui est musicien, qui est accordéoniste. Quand vous entendez là Yvette Horner, ce que je vous dis... Elle m'arrache presque les larmes avec son accordéon. Bah,
cette version est formidable. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas me moquer d'Yvette Horner. Parce que voilà, avec des années de recul, on peut toujours trouver que tel truc, ou tel élément, ou tel costume, ou telle reprise est démodé. Mais n'empêche
telle couleur
que...
de cheveux aussi. Hein.
Et, entre autres, oui,
j'invite les internautes à aller voir.
Mais n'empêche que c'était une musicienne extraordinaire. Et dans ce titre-là, en particulier, ça s'entend.
Il y a une musicalité, il y a un sens sublime, du rythme. Ouais. Elle joue avec lui de façon... extraordinaire. C'est le contraire de Popcorn. Quand on se demande comment quelqu'un peut faire les deux à la fois. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on a l'impression qu'elle fait les deux avec autant de foi, de conviction, et qu'elle croit autant à l'un qu'à l'autre.
Je la connais très peu, je l'ai croisée une fois.
C'est une vieille dame, elle a 95 ans aujourd'hui, je crois.
Petit, voilà, et... Mais oui, je pense qu'elle a mis toujours énormément d'énergie là-dedans, mais comme beaucoup d'accordéonistes qui ont lutté aussi pour faire reconnaître cet instrument et pour l'implanter un peu dans tous les styles.
Alors vous nous disiez tout à l'heure, vous avez fait, il y a encore 10 ans, vous faisiez des balles.
Oui.
Aujourd'hui, vous faites quand même une musique plus jazz, plus, moi je vais dire un peu plus intello, ça ne serait peut-être pas content, mais c'est
alors,
grave.
Je ne fais pas de jazz, je fais vraiment de la musique classique.
Ah pardon.
C'est encore pire.
Mais comment vous avez fait la transition alors?
Eh ben,
je me rappelle toujours, je racontais ma vie, mais moi je jouais Nabucco de Verdi à l'accordéon, c'était affreux.
Alors moi j'ai jamais joué enfant Nabucco de Verdi, absolument pas. J'avais pas d'attirance avec la musique classique parce que mes parents n'en écoutaient pas. C'est des gens qui écoutaient de la musique populaire, de la chanson et puis du musette. J'ai vraiment appris à aimer ça en prenant des cours.
Quelqu'un vous a initié, un professeur?
Oui, bien sûr, mon professeur. Et puis j'ai travaillé auprès de Jacques Mornay, moi en Auvergne. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait découvrir comme ça toutes les facettes de l'instrument. Puis très vite. Alors dans le milieu de l'accordéon, il y avait des concours nationaux et internationaux, c'est qui venait aussi du fait que c'était un instrument qui n'était pas enseigné au conservatoire, donc il y avait tout un système de concours qui était mis en place. Et moi, j'ai eu la chance de participer à certains d'entre
vous
eux.
Vous êtes allé où, par exemple, pour un concours ?
Ah, je suis allé un peu, enfin, je suis allé à plein d'endroits. Je suis allé à Washington, je suis allé en Russie, je suis allé en Italie.
Quand on est un enfant, c'est aussi.
C'était formidable, ouais. Et puis on écoutait quand même des types qui jouaient. Je me souviens de concours en Russie où c'était absolument génial parce que les Russes ont, eux, une histoire un peu différente avec l'accordéon. Très vite, ils l'ont implanté dans le domaine de la musique classique et ils ont beaucoup de recul là-dessus. Ils ont écrit beaucoup de littérature pour l'instrument.
Félicien Brut, c'est vous qu'on entendait là avec le Quatuor Hermès et Édouard Macaret, c'est ça?
Oui,
qu'est-ce
absolument.
Qu'on entend là?
On entend une pièce de Richard Galliano que j'adore et qui a fait énormément pour cet instrument, qui l'a ouvert sur toutes les esthétiques. Ça s'appelle La Petite Suite Française, c'est le final de La Petite Suite Française, donc qui est écrit pour quintette à cordes et accordéon. Et c'est la formation avec laquelle je fais beaucoup de concerts en ce moment, ça s'appelle Le Paris des Bretelles, voilà, donc c'est un sextet. Où je suis avec le Quatuor Hermès, qui est un quatuor à cordes très installé, un très beau quatuor à cordes, et Édouard Macarès, qui est contrebassiste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Quand on joue l'accordéon, Félicien Brut et non pas Benjamin, est-ce qu'on est frustré parfois par l'étroitesse du répertoire qu'on a? Il n'y a pas de symphonie, il y a peu de grands morceaux, vous n'êtes pas dans un orchestre?
On n'est pas dans un orchestre et puis on n'a pas vraiment vocation à y être, même si de temps en temps, là vous voyez, je suis allé faire une série avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg, un ciné-concert et Bernstein dans une musique de film, un film qui s'appelle On the Waterfront, il a écrit un peu d'accordéon, donc je suis allé faire quelques notes d'accordéon au milieu de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Mais oui, on a un répertoire un peu limité et c'est du coup le défi auquel nous on a été confrontés, entre autres avec la formation du Paris des Bretelles, et je me suis rapproché d'un compositeur qui s'appelle Thibaut Perrine, qui est un jeune compositeur français formidable et qui nous a écrit une pièce qui s'appelle Suite Musette et qui fait un peu la synthèse aussi de mon histoire justement, puisqu'il a écrit une pièce en 5 mouvements, qui est une pièce de musique classique, mais qui est inspirée des danses et de thèmes populaires venus du Musette.
Donc aujourd'hui vous êtes quasiment obligé d'aller chercher des compositeurs pour qu'ils vous fassent des morceaux?
Ben, ça peut faire partie de notre travail et je trouve que c'est passionnant parce que ça permet justement de travailler en étroite collaboration avec quelqu'un qui a écrit de la musique comme ça, et ça permet aussi de continuer à favoriser la création musicale, et moi je crois beaucoup à ça, et je crois beaucoup à la musique contemporaine qui s'inspire comme ça de musique populaire et de thèmes connus finalement.
Faudrait peut-être aussi la re-hybrider, puisque vous disiez tout à l'heure que le Musette était une musique cosmopolite.
Oui, certainement. Je crois que c'est ça qui est intéressant finalement. C'est une musique cosmopolite, donc pourquoi pas aujourd'hui la mélanger avec les règles de l'écriture classique, de la musique qu'on appelle savante. Je trouve que c'est intéressant. Il y a d'ailleurs plein de compositeurs. Moi, je travaille avec Thibaut Perrine, mais il y a Bernard Cavana qui écrit beaucoup pour accordéon. Il y a Thierry Esquèche qui est un compositeur extrêmement reconnu et qui s'inspire aussi beaucoup comme ça de musique populaire, qui lui-même était accordéoniste quand il était jeune, etc. Et je trouve qu'on a de plus en plus de créations comme ça qui vont dans le bon sens pour notre instrument.
Il y a encore des gens qui vont aux bals musettes, ça existe encore les bals musettes?
Oui, bien sûr, ça existe encore, j'ai des amis.
Il y a encore du monde ou ils sont tous en déambulateur?
Il y a peut-être, je sais pas, parce que moi ça fait longtemps maintenant que je fais plus de bals musettes, mais...
On est obligé de choisir, on peut pas faire les deux?
Si on peut.
C'est parce que les univers esthétiques tellement différents, qu'une fois qu'on a changé, on peut...
Moi je pense qu'on peut faire les deux. Certains ne sont pas d'accord. Je me souviens d'un enseignant que j'avais, je ne dirais pas où, mais qui me disait: tu ne peux pas aller jouer des valses-musettes le week-end et travailler un prélude et fugue de Bach le lundi. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la musique, on sait que dans de nombreuses cultures, et y compris dans la culture classique, les musiciens ont souvent comme ça été hybrides entre plusieurs répertoires.
Il y a plein d'aujourd'hui de musique dite classique qui était de la danse d'abord.
Bien sûr. Et puis, il y a surtout de plus en plus de musiciens classiques de très haut niveau, de la nouvelle génération, qui cherchent comme ça à Parce que la musique classique a aussi souffert de ça. On dit que le musette a été un peu enfermé, ringardisé, etc. Mais la musique classique, pendant longtemps, a souffert de ne pas être assez ouverte, pas assez
fermée,
grand
ouais,
public.
C'est un univers fermé.
Et je crois qu'il y a aujourd'hui toute une catégorie de musiciens qui sont très brillants par ailleurs et qui ont vraiment à cœur d'aller jouer dans des lieux où on ne les attend pas, des répertoires dans lesquels on ne les attend pas. Et c'est une vraie chance.
Vous jouez d'un autre instrument que de l'accordéon ?
Absolument pas. Je ne sais rien faire d'autre dans la vie.
J'ai jamais essayé de jouer du piano.
Bon, je peux jouer 5 notes, si, mais pas très bien.
C'était Yann Tiersen, un extrait du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Encore une autre manière de jouer l'accordéon dans la musique du film. Moi, j'ai l'impression que ce morceau-là a complètement changé l'image de l'accordéon.
Absolument.
L'accordéon est rentré aux un rock.
Oui, c'est exactement ça. Et puis moi, j'ai le souvenir, à l'époque, j'enseignais l'accordéon au conservatoire. Et les petits de 6 ou 7 ans poussaient la porte de ma salle en disant « Je veux jouer de l'accordéon parce que j'aime la musique d'Amélie Poulain. »
Ça n'était jamais arrivé à part vous ? Non,
mais avant, les gens choisissaient plus l'accordéon justement pour le musette, mais pas pour ça. Et à partir du moment où cette musique est sortie, effectivement, il y a eu un vrai intérêt. Et c'est toujours une chance. Voilà, je crois qu'il y a toujours eu des gens qui ont soutenu cet instrument et qui ont permis qu'il se ferait un chemin. Et la meilleure représentation de ça, c'est aujourd'hui la carrière que fait Richard Galliano dans tous les styles, parce qu'il a fait de la chanson, du jazz, de la musique classique, et il a imposé cet instrument partout.
C'était donc Richard Galliano.
C'était Yann Tiersen.
C'était Yann Tiersen, c'était Amélie Poulain. Et c'était moi qui me perds dans tous ces accordéonistes. Non, parce que je trouve que c'est fascinant, cet instrument, il peut donner le meilleur comme le pire selon ce qu'on met autour.
Bah, comme tous les autres. Hein.
Ah, je trouve que celui-là, c'est particulier.
Oh, bah attendez, alors ça c'est quand même. Non, c'est très injuste. Ça, c'est très injuste parce qu'il s'est quand même fait des choses extrêmement mauvaises au piano, au violon.
Vous voulez qu'on vous repasse Popcorn ou.
Non, mais je peux revenir une autre fois avec quelques perles au violoncelle ou au piano, si vous voulez.
C'est vrai qu'on peut écouter André Rieu, si on veut.
Oui, voilà, par exemple.
Vous enseignez la musique, c'est une passion, c'est pour vous important de justement de transmettre tout ça ?
Je n'enseigne plus, mais j'ai adoré faire ça. Je ne dis pas que je ne le referai pas à un moment ou à un autre. Là, bon,
j'ai arrêté parce que vous avez trop de concerts.
Je suis trop pris par les concerts, oui. À un moment, il faut avoir le temps de travailler, de répéter, de créer tous ces projets qui prennent beaucoup de temps. Mais c'est formidable, j'adore faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai adoré enseigner et peut-être que je réenseignerai à un moment ou à un autre, c'est possible.
Donc là, vous avez quoi comme projet pour les mois qui viennent ?
Eh bien, écoutez, j'ai pas mal de concerts, donc avec le sextet Le Paris des Bretelles, comme je vous le disais.
Donc, on peut retrouver les dates sur votre site internet,
oui,
félicienbrut.com.
Oui, c'est ça. Et puis, j'ai aussi des dates en duo avec contrebasse, un duo avec violon, un duo avec clarinette qui va être créé au mois de juin.
Et alors, ça, comment ça se fait à chaque fois ? C'est les musiciens qui viennent vous chercher ? C'est vous qui allez les chercher ?
Ça dépend des fois. Des fois, c'est moi qui vais les chercher, des fois, c'est eux. Mais,
clarinette, par exemple. Moi, j'adore la clarinette.
La clarinette, on s'est rencontrés un peu par hasard. Il est venu sur un concert du Paris des Bretelles à la scène musicale. Il s'appelle Renaud Guy Rousseau. Il est clarinette basse solo à l'Orchestre National de France. Et il m'a dit que ça serait peut-être chouette de travailler un programme en duo clarinette-accordéon. Et voilà, j'ai dit oui. Et on va travailler un programme sur les musiques d'Europe de l'Est en mélangeant des musiques à la fois classiques et des musiques populaires, mais toutes originaires d'Europe de l'Est. Voilà.
C'est difficile d'enregistrer un album, à ma connaissance, vous n'avez pas encore pu le faire.
Alors, j'ai enregistré un disque avec le trio Astoria il y a quelques années, et là, il y a un disque qui est en préparation avec le Paris des Bretelles, dans un beau label, et j'en suis très heureux.
C'est dur quand même de convaincre ?
Oui, bien sûr, c'est un peu dur de convaincre, mais finalement, les gens sont quand même souvent extrêmement aidants. Et pour l'instant, écoutez, ou alors j'ai de la chance, mais je touche du bois pourvu que ça dure. C'est plutôt une bonne chose.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, Félicien Brut. Merci beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas d'accordéon dans le générique de fin. C'est déjà à la fin donc, du deuxième, donc 11e, pardon, épisode de la saison 2 de La Relève. Aujourd'hui, l'émission était préparée et présentée par Christophe, réalisée par Louis-Julien. Il est temps que j'aille me coucher. Vous retrouvez tout sur la page La Relève sur le site de Radio Campus Paris. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Retrouvez ce soir à 19h la matinale. Bonne quinzaine à tous. Merci de nous avoir écoutés. Bon, alors très bien. J'ai lu que vous occupiez, juste avant de terminer, ça n'a aucun rapport avec ce dont on vient de parler, j'ai lu que vous occupiez aussi la protection des tortues marines.
Oui, alors j'ai... Bon, c'est un bénévolat que j'ai fait aussi d'ailleurs au Mexique. C'était une expérience vraiment fantastique parce que donc on travaillait de nuit sur les plages et voilà, en fait, on venait récupérer les œufs de ces tortues pour pouvoir les placer dans un endroit sécurisé. Et c'était absolument magnifique d'être en contact avec ces animaux sauvages et de se dire, on essaie de protéger un tout petit peu, au moins à notre échelle, ces animaux.
Ben merci pour tout, Katharina Dir. On espère bientôt pouvoir admirer ces barges le long du canal Saint-Martin, donc cet été ou peut-être un peu plus tard. On a le temps du moment que ce soit fait, c'est l'essentiel. C'est déjà la fin, et oui, du 12e épisode de la saison 2 de La Relève. Donc merci à Katharina Dir d'avoir été avec nous. On peut retrouver beaucoup d'informations sur votre projet, et si vous êtes ingénieur et que vous voulez le rejoindre, natureandus.org. Cette semaine à la réalisation, il y avait Louis-Julien, espèce à protéger, Christophe à la présentation et à la préparation. Vous retrouverez tout sur la page de La Relève sur le site de Radio Campus Paris. Quant à nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris, il est excellent. Et rendez-vous ce soir à 19h pour la matinale. Vous le savez, ici, on a beaucoup d'humour. Bonne quinzaine à tous. One day, in May, it suddenly happened. Dans les podcasts qui sont sur le site internet de La Relève. On se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Et ce soir, vous avez rendez-vous à 19h pour la matinale. Je crois qu'il y a quelque chose d'absurde derrière tout ça. Suddenly happened.